Jane Bichevskaya sur Remue Ménage, Radio Zone 93.8, le destin. Dernière chanson de Jane Bichevskaya, vous, mes sœurs, mes compagnes. C'était Jane Bichevskaya, une chanteuse soviétique dont nous avons entendu trois chansons aujourd'hui. Ma petite fleur, le dessin et destin et vous, mes sœurs, mes compagnes. Alors je vous propose, comme je vous le disais tout à l'heure, de vous installer maintenant confortablement dans votre fauteuil, de prendre un petit verre et de passer une demi-heure en la compagnie de Michel Amoudru. Michel Amoudru qui va vous lire un texte écrit par Annelise Grobetti qui s'appelle « Maternaire ». Et ce texte, elle l'a lu en direct, où nous avons enregistré ce texte, sa voix, au Théâtre du Grütli lundi passé, dans le cadre des lectures organisées par les femmes, l'association Femmes de Théâtre. Cette association, comme vous l'entendiez au micro de Marie-Ange sur Radio Pleine Lune la semaine passée, est une association qui s'est créée dans le but de parler des problèmes que rencontrent les femmes comédiennes à trouver un répertoire avec des rôles féminins qui ne soient pas seulement ceux traditionnellement féminins, la mère, la reine, qui en général déplacent peu intéressantes dans le répertoire classique, Mais j'ai cherché dans la littérature contemporaine des rôles féminins un peu plus intéressants. Et dans ce sens-là, elles organisent pour la troisième année ces lectures au Théâtre du Grütli, où elles choisissent des textes qui justement proposent des rôles féminins intéressants. Alors elles ne les montent pas, parce que ces textes ne sont pas toujours prévus pour le théâtre, mais elles les lisent en se disant que peut-être cela encouragera les auteurs et auteures comme écrivaines à écrire des textes spécialement pour le théâtre ou à adapter certains des textes déjà écrits pour le théâtre. Alors une mise en lecture, c'est une préparation du texte à lire simplement sans mise en scène particulière dans le théâtre, mais avec parfois l'apport d'un musicien, d'un danseur ou d'une danseuse, d'une chanteuse, comme c'est le cas aujourd'hui dans la lecture de Maternaire. Maternaire qui est un texte écrit par Annelise Grebetti, dont nous avions parlé, nous, il y a 15 jours. Annelise Grebetti, donc écrivaine neuchâteloise qui vient de la Chaux-de-Fonds. Et ce texte a été choisi et mis en lecture par Françoise Chevreau, élu, comme je vous le disais tout à l'heure, par Michel Amoudru.
Par exemple, il n'avait que quelques semaines et je m'amusais à le pincer jusqu'à ce que sa petite bouche commence à se plisser. J'arrêtais toujours juste avant qu'il ne se mette à crier, vous pouvez me croire. Sa peau devenait tout juste un peu violacée. Bien sûr, vous me direz que je n'étais pas faite pour ça et que j'aurais dû m'en douter, vous avez sûrement raison. Mais vous savez comme sont les gens. Ils se croient toujours obligés de vous aider, de vous encourager. Ils vous rabâchent des « vous verrez dès qu'il sera là, dès que vous le tiendrez dans vos bras, que vous verrez sa jolie petite frimousse rose, vous saurez les gestes à faire. Vous ressentirez cette joie profonde, incomparable, comme toutes les mères. Votre être entier sera comblé. » Je ne demandais qu'à les croire. Mais rien, rien, je n'ai rien ressenti de tout ce qu'ils me promettaient. Je me sentais un peu bête, vous pensez? Visiblement, il y avait quelque chose qui m'échappait. Je n'étais pas déçue, mais désorientée. Je me disais sûrement que je ne le tiens pas correctement dans mes bras. Je restais avec cette chose entre les mains, sans trop bien savoir que penser. Je n'avais qu'une idée, m'en débarrasser le plus vite possible, poser plus loin. Je ne dis pas le plus loin possible de moi, non. J'éprouvais tout de même le besoin d'y jeter un coup d'œil de temps en temps. D'ailleurs, il m'est toujours resté comme une vague conscience de mes responsabilités face à lui, comme quelques écailles de peinture sur de vieux volets, un léger garde-fou. Vous souriez ? Un parapet. Je vous dis tout ça, je vous donne ces détails pour que vous compreniez bien, que vous puissiez vous rendre compte. Les choses ne sont pas venues d'un coup comme ça. mais elles étaient déjà toutes là depuis le début. Je n'ai rien à vous cacher. Vous me posez une question, je vous réponds. Pour résumer, disons que dès le commencement, cette histoire a eu des ratés. Pourtant, je faisais absolument tous les gestes qu'il fallait faire. N'allez pas croire que je n'en étais pas capable, très capable. Je m'en étonnais moi-même. Vous me direz qu'il n'y avait que les gestes, que tout le reste manquait. Bien sûr. Mais à ce stade, ça ne crève pas les yeux. Les choses se confondent. Les gestes, le contenu. Même moi, je m'y croyais. Alors vous voyez ?
Hoje eu quero a rosa mais linda que houver. E a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo e o abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de barco voltando, quero ternura de mãos se encontrando, para enfeitar a noite do meu bem, a noite do meu bem, ai. Eu quero amor, o amor mais profundo, eu quero toda a beleza do para enfeitar a noite do meu bem.
Bien entendu, il y avait des indices. Par exemple, il adorait téter sa petite Lolette. Eh bien, il m'arrivait de la lui retirer brusquement de la bouche et de la poser assez loin pour que sa main tendue ne puisse juste pas l'atteindre. Il la voyait, il étirait vers elle son bras le plus possible, mais il ne pouvait la toucher. Ce n'était tout de même pas un grand réconfort de l'entendre brailler de sa grande bouche rouge sang, mais enfin. La même chose avec le biberon. Quand il venait juste de fermer les yeux de plaisir, la tétine bien calée entre les lèvres, hop, je l'arrachais d'un coup de sa petite bouche. Vous auriez dû voir comme il ouvrait de gros yeux ronds. Il essayait de s'agripper au biberon, la bouche tendue en avant, toute ronde et frustrée. Mais j'étais toujours la plus forte. Ceci dit, sans fierté particulière, c'était comme ça. Parfois, ces cris, franchement, me mettaient hors de moi. Alors je pensais très fort à ce que les autres me disaient. Parce que, attentionnés comme ils sont, ils étaient revenus à la charge, vous pensez bien, ils en rajoutaient à la moindre occasion. Tu verras comme c'est mignon quand ils font leur premier pas. Oh, quelle merveille, l'époque des premiers mots. Quand il sera plus indépendant. Je me disais oui. C'est sûrement cet âge-là qui ne me convient pas, ça ira mieux quand il aura grandi. Mais je voyais les âges passer, la merveilleuse époque des dents de lait, l'émouvant temps des premiers pas, la chouette phase des galimatias et toujours rien, le bide complet. J'avais encore l'impression que le mode d'emploi m'échappait ou que je le lisais à l'envers. Je dis ça en riant, mais vous savez, je ne riais pas tous les jours. Ce n'est pas follement drôle de vous rendre compte que vous êtes en train de rater quelque chose d'important. Je veux dire quelque chose que les autres considèrent comme important, quand vous ne demandez qu'à les croire. Pour me donner du courage, j'essayais le plus long terme, quand il sera à l'école, quand il fera du football, quand il sera adolescent. Évidemment, je ne vais pas savoir. Mais n'allez pas vous dire pour autant quelle triste histoire ou quelque chose dans ce genre, non. C'est juste une histoire qui est allée exactement là où elle devait.
Quiero a alegria de um barco voltando. Quiero ternura de mãos se encontrando. Para enfeitar a noite do meu bem. A noite do meu bem, ai. Como este bem demorou a chegar. E eu já nem sei se terei no olhar toda a ternura que eu quero lhe dar.
J'aimais le sentir en détresse, octant, tendant ses petits poings devant lui dans le vide pour chercher du secours. Je pouvais aussi le consoler. Quand il entendait ma voix, il se calmait généralement. Je crois qu'il était attaché à moi. Et moi, n'allais pas hâtivement en conclure que je ne l'aimais pas. Ça m'amusait de le voir trébucher sur ses petites jambes. Je l'encourageais à courir sur les chemins où il y avait tous ces cailloux et ces trous. On ne peut pas dire qu'il n'était pas persévérant, il faisait tout pour me faire plaisir. Et quand il était tombé 4 ou 5 fois, je finissais par l'aider à se relever. J'aimais aussi l'abandonner dans la rue. Tout à coup, je lâchais sa menotte chaude et je partais en courant, le laissant tout seul sur le trottoir, au milieu de ces inconnus. J'allais chaque fois le rechercher au bout de quelques minutes, croyez-moi. Une seule fois, j'ai eu bien du mal à le retrouver. Je ne perdais pas non plus une occasion de lui faire remarquer tous les chats écrasés, les oiseaux morts, les hérissons aplatis sur la chaussée, les chats guettant les oiseaux pour les tuer, les souris dans les trappes à souris, les veaux qu'on emmenait à l'abattoir dans ses remorques, les belles billes de belladone noire qui font mourir les petits enfants qui la croquent. J'aimais sentir sa perplexité inquiète. Remarquez, ça l'intéressait beaucoup, toutes ces choses. Je lui ai aussi dérobé ou cassé quelquefois de petits objets auxquels il tenait particulièrement. Oh, des bricoles. Quand il me ramenait de l'école des dessins ou des bricolages, je ne les regardais pas. À vrai dire, je suis sûre que vous-même reconnaissez le peu d'intérêt de ces choses-là. Je suis parfaitement consciente du fait que les mères jouent le jeu du beau dessin et s'accordent à s'exclamer « Oh, quel beau cercle violet! Tu l'as fait tout seul! Vraiment, c'est magnifique !» Moi, pourquoi vous raconter des histoires? Je n'y arrivais pas. Je ne trouvais pas les mots à dire. Et si en plus je lui avais menti? Alors je préférais ne jamais regarder et les glisser dans la poubelle sous le moindre prétexte. Je lui parlais de tous les enfants sans maman et sans papa, de la guerre, des bombes qui peuvent en une seconde vous réduire votre jolie maman en petits morceaux et vous laisser tout seul au milieu de vos jouets cassés. Rocher la tête, vous avez raison, j'exagérais. Mais le sentiment d'avoir tout gâché depuis longtemps, depuis bien avant que vous n'existiez, vous fait faire des choses étranges et commettre certains excès.
Piscine, solène, paquette, solène, minini, titi, solène, non, tu n'es pas commune. Aquette, minini, aquette, minini, solène, non, viens, 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 viens,
Il y a eu aussi des histoires comme celle du bassin du jardin public. Vous savez, s'il y a une chose que j'aurais détestée dans ma vie, c'est bien le jardin public. Je vais vous expliquer. C'est que le jardin public est bourré de mer. De mer. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, moi, je sais de quoi je parle. Des mamans avec leurs petites ou partout autour, comme si c'était leur seule parure. Si elles se contentaient de rester là, assises sur les bancs. Mais ce sont des mères. Alors, elles sont partout, tout le temps, à poser leurs yeux sur leurs petits de tous les côtés, de vrais gyroscopes. Toujours légèrement penchées du bon côté, mais sans jamais perdre l'équilibre, parce que leur centre de gravité est immédiatement réajusté là où se trouvent leurs petits. Elles ont des regards de mère pour les surveiller, les approuver du regard et de la tête, les encourager à sauter, admirer comme ils ont bien sauté. Elles sont comme des chattes devant le trou du campagnol, immobiles, là, comme endormies, mais tout sans s'en éveil. Et tout à coup, juste au bon moment, elles font un prodigieux bond en avant jusque vers leur petit pour l'agripper avant qu'il ne fasse mal ou qu'il ne commette une bêtise. C'est exactement comme ça que ça se passe. Je les ai observées pendant des heures, je n'invente rien. Elles sont activement, attentivement et activement mères. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Tous leurs gestes sont des gestes de mère. Même leur odeur sent la mère. Vous ne me croyez pas? Elles rajustent les bonnets bien sur les oreilles. Elles crochent les vestes pour qu'il n'ait pas froid. Elles enlèvent les petites jaquettes pour qu'il n'ait pas trop chaud. Elles sortent des biscuits chocolat de leur sac. Elles se précipitent quand ils se bousculent trop fort. Elles courent d'un bout à l'autre du toboggan pour les aider à grimper à l'échelle, tendent leurs bras tout en haut pendant qu'ils s'asseyent. Et puis elles courent à l'autre bout du toboggan. S'accroupissent pour les recevoir, comme des hosties. Et elles se croient encore, à ce moment-là, obligées de leur sourire. Un énorme sourire, qui n'est peut-être que la marque de satisfaction de les voir arriver en bas, sains et saufs. Elles ramassent les petites pelles. Elles leur enlèvent des mains les petits bâtons, ils pourraient se faire mal. Il y en a qui font le pied de grue tout l'après-midi, à un demi-mètre de leur enfant. Il y a aussi celles qui sont de piquet devant le petit carrousel ou les balançoires, tout l'après-midi. Il y a et les mères qui ont l'air plus dégagées, qui font mine de parler entre elles, assises sur les bancs, mais je peux vous certifier qu'elles ne sont pas vraiment plus détendues que les autres. Qu'elles ont, elles aussi, leur paire de ressorts bien vissés sous les pieds, les propulsant en avant à la moindre alerte. Et je suis malheureusement obligée d'ajouter, en plus, elles parlent. À haute et intelligible voix, elles exhortent les enfants à la prudence, les encouragent, interdisent, grondent, menacent, crient, donnent des conseils pour qu'ils se balancent avec plus d'efficacité sur la balançoire. À tout instant, elles disent, à haute et intelligible voix, pour être bien entendues des autres mères, « Fais attention, tiens-toi bien fort !» ou bien « Ne cours pas si vite !» ou encore « Arrête de taper sur la petite fille où je viens !» Quand elle ne brame pas proche de l'évanouissement, « Jette ce pruneau! Il y a sûrement une guêpe dessus !» Il y a toujours dans tout ce qu'elles disent l'intonation juste, la bonne, la seule. Si elles sont arrivées juste trop tard, que l'enfant a court-circuité leur vigilance, les a prises de vitesse par ses pleurs, elles le consolent à haute et intelligible voix. Et elles ont exactement les mots qu'il faut pour ça. même s'ils n'ont pas d'effet immédiat et qu'elles doivent s'y reprendre à plusieurs fois pour que les mugissements se calment. Elle souffle sur les bobos, frotte les bobos lits de vin avec un sang-froid et un savoir-faire remarquables. Elles frottent, elles soufflent, elles embrassent en répétant « mais c'est rien, rien du tout !» Alors que toute leur attitude, leur ton, l'empressement de leurs gestes prouvent qu'elles en font une affaire importante. Il ne faut pas non plus que j'oublie de vous dire qu'elles parlent entre elles. Elles parlent d'abord de leurs petits, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils feront, de ce qu'ils ont dit hier soir à table, et comme ils ont eu de la peine à s'endormir, et comme ils toussent un peu la nuit, et comme ils parlent tellement mieux que le petit voisin qui a au moins 6 mois de plus. Elles parlent aussi d'autres choses qui ressemblent comme de grandes sœurs à celles-là. Vous pouvez aller les écouter. Vous entendrez que c'est exactement ça. Des mères mouchoirs qu'on a partout dans les poches. Heureusement qu'on finit toujours par les perdre et qu'ils parlent de choses de mère. Non, c'est important. Il ne faut pas vous impatienter. Je vous raconte ça dans un but précis pour vous expliquer. Au début, quand j'allais au jardin public avec lui, je me mettais près d'elle, avec l'état d'âme d'un caméléon, en me disant, en étant au milieu d'elle, je finirais peut-être par leur ressembler, par être dans le ton. J'arrivais même à leur répondre. Je parlais avec elle. Et puis, j'ai mis tout ce que j'ai pu de distance entre moi et elle. Je ne supportais plus ni leur odeur, ni leurs paroles. Remarquez, après l'histoire des bassins, ce sont elles qui ont mis de la distance entre elle et moi.
Por que cresceste cominha assim depressa, estabanada? Saístes maquiada dentro do meu vestido. Se fosse permitido por minha, eu revertia o tempo pra reviver a tempo. De poder te ver as pernas bambas, curuminha, batendo com a moleira, te empocalhando inteira, eu te negar meu colo, recuperar as noites, curuminha, que atravessei em claro, ignorar teu choro e só cuidar de mim, deixar-te arder de febre, curuminha. 50 graus, tossir, bater o queixo, vestir-te com desleixo, tratar-te uma maceca, quebrar sua boneca, curminha, raspar os teus cabelos, ir te exibindo pelos botequins, tornar azeite o leite do peito que me raste, no chão que engatinhaste, salpicar mil cacos de vidro. Pelo cordão perdido, te recolher pra sempre. Ai, na escuridão do ventre, curminha, de onde não deverias nunca ter saído.
Histoire du bassin. Oh, pas grand-chose en fin de compte. Un après-midi, il y a deux mères, qui me l'ont ramené tout dégoulinant. Il était tombé dans le bassin. Je sais que ce n'était pas bien difficile. J'aurais dû d'abord, sous l'effet de la surprise, effrayée, commencer par dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je ne l'ai pas dit parce que je voyais bien qu'il était tombé dans le bassin. Et je n'étais pas surprise parce que je savais que ça arriverait. Dans un deuxième temps, il aurait fallu prendre la grosse voix de la mère contrariée, fâchée même, et crier à haute et intelligible voix « Mais tu ne pouvais pas faire attention, non? Tu as vu dans quel état tu es ?» tout en le secouant un peu rudement. Là encore, j'ai raté ma réplique. Toutes sortes de raisons. Et il y a eu un blanc très gênant à cause de moi. Elle commençait à me regarder bizarrement. Je sais aussi parfaitement ce qu'il aurait fallu faire en troisième position. Descendre le ton d'un demi-cran, attraper le petit par le bras d'un air navré, dire « Mais tu vas prendre froid, viens vite, on va rentrer te changer. » Les gestes à faire étaient ensuite dans l'ordre, enlever les vêtements de dessus de l'enfant, tirer de son sac une grande jaquette de mère, envelopper l'enfant dedans d'un air décidé et revendicateur, c'est moi qui fais ça et personne d'autre. Quitter précipitamment le jardin public et se hâter vers la maison. Voilà ce qu'aurait dû faire une bonne mère. Non mais j'ai l'air d'allonger, mais je veux que vous ayez en main tous les éléments. Que vous sachiez que je ne suis pas complètement inconsciente. Que je savais toutes ces choses. Je les savais, mais je n'ai rien fait de tout ça. Je l'ai regardée, j'ai ri. Pas un rire à haute et intelligible voix, un petit rire discret. Et j'ai dit, va jouer. Il est reparti avec ses vêtements tout mouillés en sautant sur ses deux jambes maigres. Elles aussi sont reparties sans rien me dire. Je vous laisse imaginer quel regard elles m'ont jeté. Je sais, je n'ai pas d'excuses et c'est ce que me disait leur regard. Je n'étais pas en train de lire un chapitre captivant, je ne lisais pas. Je n'étais pas en train d'écrire une lettre importante, je n'écrivais pas. Je ne tricotais pas non plus. L'une de ces choses qui sont le sujet de tant de conversations et l'objet de tant d'admiration. Je n'ai plus rien tricoté depuis la paire de chaussettes scolaires de mes 10 ans, roses si vives d'ailleurs, que je n'ai jamais pu les porter. J'étais juste là, sur ce banc. On ne me dérangeait pas, enfin, apparemment pas. Il n'a pas toussé après cette histoire, je vous assure, juste un petit rhume. Je ne vois pas pourquoi il aurait fallu déclencher le plan catastrophe pour si peu et toute la tirade de l'enfant tombé dans le bassin. J'ai toujours été comme ça. Être mère n'allait pas changer les choses. Je ne suis pas d'un caractère qui dramatise les situations. Par exemple, un jour, il pouvait avoir 4 ans. Il était dans son bain. Et j'ai posé le sèche-cheveux sur le bord de la baignoire, avec la prise enclenchée. Je me suis dit, il aura peut-être envie de le faire marcher dans l'eau pour faire des vagues. Je vous raconte ça pour que vous puissiez apprécier la nuance. Je ne me suis pas dit, il va sûrement l'enclencher. J'ai pensé, peut-être. Il n'a d'ailleurs pas songé à le faire. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. J'ai été un peu longue, mais je voulais que vous sachiez comment tout ça a commencé. C'est comme ça que tout a commencé. Pour la fin, vous le savez, exactement là où ça devait aller, quand on a le sentiment d'avoir irrémédiablement tout gâché depuis longtemps.
Oh, pedaço de mim, oh, metade afastada de mim, leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entregar. Oh, pedaço de mim, oh, metade exilada de mim, leva os teus sinais que a saudade dói como um barco que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais. Oh, pedaço de mim, arrancada de mim. Leva aos olhos teus que a saudade é o revés de um parto. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói, latejada e assim como uma fisgada no membro que já perdi. Ó pedaço de mim, ó metade adorada de mim, lava os olhos meus que a saudade dói. É o pior castigo e eu não quero levar comigo a mortalha do amor a Deus.
C'était Michel Amoudru dans Maternaire, écrit par Annelise Grobetti, mise en lecture par Françoise Chevreau, dans le cadre des lectures organisées par l'association Femmes de Théâtre au Grutli. Et ce lundi, à 19h, eh bien, il y aura une nouvelle lecture auquel nous vous encourageons vivement à assister. Et peut-être rediffuserons-nous encore sur les antennes de Remue-Ménage une autre lecture, une de ces prochaines semaines, puisque les lectures durent jusqu'au mois d'avril. Vous avez le temps de consacrer, de vous organiser pour aller un lundi soir à 19h. Écoutez l'association Femmes de Théâtre dans ses lectures d'écrivains ou d'écrivaines romandes.
Tous ces mots qui condamnent, comme c'est dur quelquefois, ces images et ces drames qu'on ne connaissait pas et qui peuplent nos rêves en nous tombant dessus. Et tous ces maquillages, ces regards éperdus, ces amis de passage qu'on ne reverra plus. Comme les chansons s'effacent, moi je voulais te dire, c'est bon que tu sois là. C'était comme une urgence dans ces affreux combats. C'est bon que tu sois là. C'est comme une évidence dans mes yeux qui se noient. Remercie ma chance en répétant tout bas, c'est bon que tu sois là. Comme une délivrance dans dans ce monde qui se bat. C'est bon que tu sois là. Dans cette indifférence où c'est chacun pour soi, je remercie ma chance en répétant tout bas. C'est bon que tu sois là.
Vous aurez reconnu, bien évidemment, France Gall, c'est bon que tu sois là. J'ai très envie de réécouter une chanson de Mikis Theodorakis que nous avons entendue en tout début d'émission, dans laquelle chante Maria Faranturi. Parce que, bon, Mikis Theodorakis, on raconte plein d'horreurs sur lui. Il fut le phare d'une lutte importante contre la dictature en Grèce. Et puis aujourd'hui, on dit qu'il est inscrit dans un parti de droite. Ma foi, nous ne sommes pas très bien placés pour savoir exactement ce qu'il se passe. Mais il n'empêche que ces chansons ont toujours été pour nous, en tout cas celles écrites autrefois par Mikis Theodorakis, des chansons qui ont fait chanter toute la Grèce en lutte contre la dictature et toute la Grèce tellement heureuse d'avoir retrouvé la démocratie. Et maintenant, je vous ai choisi une chanson qui raconte l'histoire d'une jeune fille amoureuse qui découvre un matin du mois d'août que les ennemis ont assassiné son amant, que l'on surnommait l'enfant souriant. Elle maudit les assassins, elle se lamente et assure qu'elle n'oubliera jamais cet enfant souriant. Cette chanson est devenue très très populaire en Grèce, surtout après l'assassinat du député Elda Lambrakis.
Πράσινο μου αστέρι, μαρίνα φως του αυγερινού, μαρίνα μου άγριο περιστέρι, και κρίνο του καλοκαιριού.
Une chanson de Mikis Theodorakis interprétée par Maria Farantouri et une dernière chanson, grecque toujours, l'histoire d'une mère qui se lamente sur le corps de son fils tué au cours d'une manifestation de grévistes. Dans cette chanson, la mère rappelle les moments joyeux de la vie de son fils. Elle se souvient de la vie de son fils dans la maison. Quand tu restais debout devant la fenêtre, tu étais comme un commandant et la chambre comme un bateau. C'est terminé aujourd'hui sur Remue Ménage, Radio Zone 93.8. La semaine prochaine, nous vous retrouverons en direct de 17h à 18h30 pour accueillir dans nos studios Edith Huxley. Edith Huxley qui vient de passer 3 mois de sa vie à Moscou avec son enfant, son mari, journaliste à l'Hebdo, et qui ont vécu dans une famille soviétique, ce qui est les conditions de vie des soviétiques à Moscou aujourd'hui. À découvrir sur Remue Ménage, Radio Zone 93.8 la semaine prochaine en direct.